RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Didier Giraud, Charles Consigny, Barbara Lefebvre. Avant d'entamer le duel familial entre les Consigny, je rappelle la Coupe du Monde arrive et jusqu'au 29, vous avez des packs Coupe du Monde ou 10 000 euros à gagner sur RMC. Et là, ce pack Coupe du Monde, vous savez ce que c'est ? C'est le vidéoprojecteur pour regarder les matchs des Bleus, le maillot des Bleus, le ballon officiel, la boîte Lego, trophée. Ou les 10 000 euros. C'est-à-dire que si vous êtes tiré au sort après avoir envoyé liste par SMS au 732-16 et on a un gagnant d'ici 17 minutes, bah vous désignez un des 26 joueurs présélectionnés par Didier Deschamps et derrière c'est soit le pack Coupe du Monde, soit les 10 000 euros. Envoyez liste par SMS au 732-16. Liste par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est inédit. C'est la première fois qu'on a un duel familial dans les GG, dans les grandes gueules. Nous sommes avec la comédienne Anne Consigny. Bonjour.
Bonjour.
Face à Charles Consigny. Bonjour. Mmh. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a organisé ce duel? Parce que il y a une chose qui vous sépare, c'est cette fameuse tribune contre Canal+ et contre Bolloré.
Alors Anne, vous êtes la tante de Charles, vous êtes comédienne, vous êtes au théâtre tous les soirs dans la pièce de Marguerite Duras, un barrage contre le Pacifique, c'est au théâtre de Poche du mardi au samedi à 19h. On va en reparler, c'est un seul en scène. Mais avant cela, c'est vrai que on a débattu déjà dans les grandes gueules de cette tribune anti-Bolloré. Pourquoi vous l'avez signée ?
Absolument impossible pour moi de ne pas signer ça. J'ai juste peur de ce qui peut arriver. Et je ne veux pas arriver après la bataille, que ce soit trop tard pour dire j'ai peur, j'ai eu peur.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, Canal+ produit, finance des films d'extrême droite ?
Non, justement, c'est votre aujourd'hui qui ne m'intéresse pas. Simplement, on donne à M. Bolloré un outil pour qu'il puisse le faire, pour qu'il puisse faire ce qu'il veut du cinéma français.
Ça fait des années qu'il est à la tête du Canal.
Il fait ce qu'il veut, M. Bolloré. Moi, je m'en fiche complètement de lui. C'est pas contre lui que j'en ai. J'en ai pour la démocratie, pour le fait que on ne donne à personne le pouvoir de faire une dictature en France. Je suis pour la démocratie, je suis pour le débat d'idées, je suis pour la liberté d'expression. Et là, en le laissant faire, en lui laissant prendre, et d'ailleurs l'Europe, heureusement, est là pour nous défendre et à empêcher qu'il prenne la totalité du pouvoir sur l'édition. Au cinéma, c'est la même chose. Je veux juste qu'on partage les idées et qu'on ne lui donne
vous
pas
avez entendu la réponse.
Une clé qui va donner à Bolloré. C'est les grandes gueules, donc je vous coupe la parole. J'ai vu que c'était comme ça qu'il fallait faire. Il va donner une clé à qui ? À Bardella ? Il va lui dire, tiens, vas-y, fais ce que tu veux. Ce matin, je lis dans Libé que maintenant, il y a des films genre Sacré-Cœur. C'est quoi le titre de ce film, Cato, qui m'a l'air quand même assez gratiné, qui serait programmé.
Qui est écrit dans Libé, je crois.
Pardon ?
Je crois qu'il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans Libé.
Parce non, que Sacré-Cœur, c'est un film. Les médias,
c'est un film indépendant.
Sacré-Cœur, c'est un film indépendant qui fait sa petite vie dans
oui,
son coin. Je ne crois pas que la France et la démocratie soient menacées par Sacré-Cœur.
Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention, Anne ?
Rien n'est menacé. Rien en un élément ne peut menacer la démocratie. Ah oui. Mais, par exemple, moi, je ne peux rien contre la dictature. Simplement, j'ai le droit de vote. J'ai le droit à ouvrir ma gueule aux grandes gueules.
Vous avez raison.
Et je le fais.
C'est plus efficace que la pétition, d'ailleurs, le plus fin.
Non, c'est pas plus efficace que la pétition. La pétition, elle fait qu'on en parle ce soir.
C'est pas faux. Et le patron de Canal+, Maxime Saada, qui dit, si je suis un crypto-fasciste, dans ce cas-là, on va plus travailler ensemble. Est-ce que vous craignez justement le fait d'avoir signé cette tribune?
En disant ça, il me conforte dans le fait que c'est dangereux quand même. Même s'il l'a dit, plus ou moins dans le privé, qu'il
ne
va pas
colère.
Le faire, qu'il ne l'a pas fait, etc. Le dire, c'est quand
Qu'est-ce
même
que
une aberration.
Par crypto-fasciste, justement. Qu'est-ce que vous entendez par crypto-fasciste?
Alors, moi, je n'ai jamais employé cette expression.
C'est dans la tribune.
Non,
mais c'est la tribune, c'est ce qu'elle sous-entend.
Est-ce que vous comprenez?
Alors, c'est ce qu'elle sous-entend. Vous êtes extraordinaire, madame.
Puisque vous nous expliquez que c'est le fascisme.
Qu'est-ce que vous sous-entendez?
Bolloré va donner les clés pour la dictature. C'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure.
Non, je dis que si on le laisse faire, Si on le laisse faire, il aura une clé qu'il pourra donner à qui il veut. Et je ne veux pas que cette clé existe en France.
Charles,
c'est tout.
Est-ce que tu comprends la crainte de ta tante et d'autres artistes qui se disent « Attention, Vincent Bolloré est dans un projet politique et on ne veut pas adhérer à cela ».
Alors, pour être d'ailleurs complet, mes deux tantes ont signé la tribune, oui, puisque ma tante Pascale Consigny, qui est une excellente chef déco, décoratrice de films de très grand talent, a signé aussi la tribune. Et mon père, qui est un auteur grasset, a carrément porté plainte contre le journal du dimanche pour violation du secret des correspondances
une
privées.
Une partie de la famille consignée dans le
de l'article. Donc j'ai mon père et mes deux tantes qui sont...
Donc t'es devenu un petit canard de la famille.
Non mais moi je comprends tout à fait leur raisonnement, mais j'ai une vision un peu différente que je peux expliquer en un mot. Là où je comprends leur raisonnement d'abord, c'est qu'il se trouve que Canal+ a certains droits particuliers sur le cinéma, un certain privilège sur la diffusion des films, un système qui est organisé autour de Canal+, qui donne un privilège à Canal+, dans le domaine
du cinéma. Des obligations légales.
Oui, mais donc, c'est vrai que du coup, ils peuvent pas non plus faire n'importe quoi dès lors que ça leur donne une sorte de privilège sur le cinéma.
Oui. Le fait de pouvoir diffuser les films avant les
autres. Voilà. Mais ceci étant dit, là où j'ai une vision d'abord un peu plus cynique, c'est que moi, j'ai tendance à penser que Vincent Bolloré étant de fait le propriétaire ou en tout cas l'actionnaire en contrôle de Canal+, il en fait à peu près ce qu'il veut. Moi, je pense ça très basiquement. Et d'autre part, ce que je crois aussi, c'est que on ne peut pas non plus, même si ça ne permet pas tout, faire comme si le cinéma n'était pas, depuis des années, très ancré idéologiquement. Et ça fait des années que le cinéma français, à mon sens, et je l'ai vraiment vu à de très très nombreuses reprises, est presque un instrument de propagande au service de certaines idées de gauche. Alors que ce soit le cinéma, mais aussi, on voit bien les discours des uns et des autres, au César, à Cannes, etc., où on a l'impression qu'on se prend des espèces de leçons de morale à longueur de temps. Bon. Et donc, qu'il y ait une espèce
de rééquilibrage
de ça, moi j'avoue, même si encore une fois on peut discuter de plein de choses, j'avoue que je trouve pas ça anormal. De la même manière que, et je terminerai par là, on peut contester ce que font pour dire les choses comme elles sont, CNews, etc., dire c'est horrible, c'est atroce, etc. Bon, pour moi ça n'est que d'abord la fin de la domination idéologique de la gauche et d'une certaine gauche caviar qui censurait les médias pendant très longtemps et les prises de parole. Et on voit bien que tout ça a un peu volé en éclats. Et puis, ils ne font à droite que ce que France Inter fait à gauche. Donc, je trouve que ça remet un peu d'équilibre. Et vous voyez, je fais ce geste en même temps que je parle parce que j'ai le sentiment que ça a remis un peu d'équilibre.
Anne, d'accord avec ça ou pas?
J'ai confiance en Charles, donc je peux le laisser dire ce qu'il veut. J'ai confiance dans le fond de sa pensée qui est très, très anti-extrême droite, très protectrice de la démocratie, etc. Mais dans ses propos, quelquefois, on peut se demander s'il soutient pas. Je trouve que t'es pas assez fortement contre l'extrême droite, officiellement, alors que tu l'es vraiment et que tu l'as exprimé dans les médias.
Et t'aurais pas signé la tribune, toi?
Non, je ne sais pas si j'aurais signé la tribune. Non, mais contre l'extrême droite. Moi, je pense qu'on peut combattre l'extrême droite, ne serait-ce que par la proposition d'alternatives intéressantes à l'extrême droite. Ce que je vois aussi, c'est que Bardella et compagnie prospèrent sur le vide qu'il y a en face.
Je suis d'accord.
Il y a ça aussi. Donc,
mais c'est là où il faut se défendre contre ça.
Oui, mais moi, j'essaye plutôt de proposer à ma façon d'autres réformes que celles que propose l'extrême droite.
C'est-à-dire que tu dis, il y a changement. Le choix, c'est pas forcément entre la gauche et l'extrême droite. Voilà.
Oui, c'est ça. Et puis je pense d'ailleurs que si par exemple dans ma position je martelais toute la journée que le RN c'est atroce, que l'extrême droite, que les nazis sont à nos portes à peu près, je pense que ce serait même contre-productif dans l'époque actuelle. C'est-à-dire que les gens...
Cette tribune en fait
ouverts.
Elle alimente... Ça alimente finalement le c'est le carburant
ce qui
de
est, ce qui est, pas de forcément
Bardella.
Cette tribune, en revanche, cette tribune non. En revanche, les leçons de morale de certains abonnés à la leçon de morale qu'on a quand même dans le cinéma, ça, je pense que ça alimente l'extrême droite.
C'était complètement le sens de ma question. Moi, je vis sur un bassin industriel sinistré, puisque c'était des mines, à côté de Montceau-les-Mines, et un milieu rural, puisque depuis toujours, je suis agriculteur, donc je baigne dans le milieu rural. Et je vois pas en quoi... Je rejoins complètement Charles sur le fait que que les grands moralisateurs que sont les acteurs de cinéma, en quoi cette tribune va influer sur le vote de gens qui sont venus au Rassemblement National parce qu'ils se sentent abandonnés par l'État, tout simplement. Prenez la carte du vote Rassemblement National et vous y verrez la carte des abandons de l'État, que ça soit en zone industrielle ou que ça soit en zone rurale, quoi. Et donc, ces gens-là qui sont arrivés là, alors un peu parce qu'on les a fait rêver, mais aussi un peu parce qu'on n'a jamais essayé ça, et qui se sentent profondément abandonnés, pour pas dire un gros mot, par les politiques depuis 50 ans, je vois pas en quoi une tribune d'acteurs plus ou moins connus d'ailleurs influera leur vote demain, quoi.
D'abord, c'était pas des acteurs plus ou moins connus. Il y avait des acteurs connus dans la tribune,
mais
il y
avait Binoche, beaucoup de. Elle en fait une par semaine des tribunes. Donc,
mais ça l'empêche pas d'avoir
le droit. À un moment
donné,
les gens, ils y font plus attention, quoi.
Peut-être qu'ils feront pas attention. Cette tribune, elle a pas été faite pour empêcher les gens de voter Front National. Cette tribune, elle a été faite pour que chacun puisse dire ce qu'il pense. C'est-à-dire, il y a danger. Monsieur Bolloré va prendre le pouvoir dans le cinéma comme il a essayé de le prendre dans l'édition. On a peur, on voudrait que ça ne se fasse pas. On voudrait qu'en France, il se passe ce qui s'est passé en Europe, et donc que ça soit impossible. C'est tout.
Vous avez peur de quoi, d'être censuré.
Je viens de le dire, je veux bien répéter.
Mais peur de quoi, Anne Consigny, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Peur de quoi?
Mais de quoi j'ai peur? Oui. Mais je suis terrifiée
par
ce qui peut arriver.
Non, mais par quoi précisément?
Par la prise de pouvoir du Front National et par le fait que la Constitution soit changée, que les droits fondamentaux.
C'est Mélenchon, pas Bardella. C'est Mélenchon qui va décider.
Non, Bardella, il va rien faire. Excusez-moi, il va sûrement rien faire. Il va être au pouvoir et il va laisser tout. Il va faire quoi, Bardella?
Je sais pas. On attend que vous nous expliquiez parce que, comme vous nous dites, il va changer la Constitution.
Je ne fais que dire ce que je ressens, oui. C'est-à-dire qu'on est aux portes d'un moment où, oui, il peut se trouver que à la tête du gouvernement, on aura un espèce de fantoche
de fascisme,
qui fera quelque chose comme ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Russie. C'est-à-dire le peuple a voté pour quelqu'un. Et après, il est sous l'emprise de ce quelqu'un.
Aux États-Unis, la démocratie a disparu. Il n'y a plus de contre-pouvoir aux États-Unis.
Il y a eu des très gros débordements aux États-Unis, notamment avec le mouvement ICE, avec le.
Non, mais moi, je te parle de la démocratie. Les contre-pouvoirs sont toujours là.
Qui a quand même très
les universités
déconné.
Américaines continuent de fonctionner. Elles continuent d'attirer énormément d'étudiants étrangers. Les films à Hollywood continuent de se produire autant qu'ils veulent et avec un discours très anti-Trump, et c'est très bien comme ça.
Mais vous me regardez d'un air super méchant, madame. Je m'en fiche de vos
propos. Non, mais moi, ce que je veux, c'est des exemples concrets.
On peut aussi s'inspirer du fait.
Moi, je veux juste des exemples concrets.
Si Trump, il arrive par les voies démocratiques, si Trump, il arrive, c'est parce que les gens, ils en ont plein le dos du wokisme et des gens qui leur font des leçons de morale. Et Trump, il arrive parce qu'à un moment donné, les gens, ils en peuvent plus. De leur dire le bien est là et vous êtes à côté du bien. Et je pense que Trump, il est élu démocratiquement parce que les gens, ils en ont marre et que Charles, il a complètement raison sur le fait que le balancier, il est en train de revenir.
Moi, ce que je crois, en tout cas, moi aussi, je répète un peu ce que j'ai dit, mais je pense que ça ne marche plus de faire peur et de
le barrage.
Même si on a peur sincèrement,
oui,
je pense que ça ne marche plus de dire attention, ce sont des fachos. Moi, ce que je crois, c'est que il ne faut pas faire la morale aux gens et il faut leur proposer des solutions.
Comme ça, que tu
comme
fais
la,
lire.
Comme l'a dit Didier, quand les gens sont dans des zones désindustrialisées ou quand ils sont dans des zones en proie à l'insécurité, quand ils ont le sentiment d'être déclassés, quand ils ont le sentiment qu'on leur fait la morale, la victoire de Trump aux États-Unis, par exemple, moi je pense que c'est aussi très fortement une réponse au wokisme et au lavage de cerveau qu'ils ont eu.
Non, mais vous êtes woke.
Voilà. Alors, je pense que il vaut mieux proposer un autre chemin. Mais moi je crois qu'il faut proposer aux gens un chemin porteur de solutions.
Mais moi je veux que ce chemin existe. Qu'est-ce que vous me demandez? J'ai regardé, je me suis dit qu'ils vont dire ce mot wokisme.
Oui, ça y est, c'est sorti.
J'ai demandé à Tchat, je lui ai dit, dis-moi là, ça veut dire quoi wokisme? Et Tchat m'a dit, posez la question à la personne qui emploie ce mot.
Oui.
De quoi elle parle? De quoi parles-tu, Charles?
Bah, non, bah, le wokisme, par exemple, c'est quand on demande, par exemple, que des minorités ethniques ou religieuses soient obligatoirement présentes dans les films. Par exemple, c'est quand on se retrouve avec Jeanne d'Arc jouée par une actrice noire, parce que c'est une demande de des brigades woke.
Je vais donner un autre exemple. C'est aussi Madame Peter Consigny,
Brook,
c'est aussi.
Peter Brook a fait jouer Hamlet par un acteur noir en 1985.
Oui, je ne crois pas que le mot wokisme existait. Ce que je veux dire,
pour Jeanne d'Arc, c'est plus compliqué.
Je te donne un exemple.
Allez, c'est pas du tout compliqué de mettre une actrice noire pour jouer Jeanne d'Arc.
Écoutez, pas du tout.
Pour jouer Léopold Sédar Senghor, on demandera à Pierre Ninet.
Mais pourquoi
mais
pas, madame?
Pourquoi pas? Mais oui.
Mais quel est le rapport?
Non, mais c'est ça le wokisme. C'est que, par exemple, le wokisme, c'est le fait de dire qu'une femme à pénis n'existe pas. Un homme à pénis, femme à pénis n'existe pas. Voilà, vous voyez. Si moi je dis une femme à pénis, ça n'existe pas, je me fais traiter de transphobe et je peux finir devant la 17e chambre correctionnelle.
J'ai rien compris sur cette histoire de pénis. On va quand même terminer.
Une femme à pénis, tu sais très bien ce que c'est.
On va terminer avec un barrage contre le Pacifique.
Ah voilà.
Tous les soirs.
Demander une définition.
C'est tous les soirs à 19h.
Voilà.
Un seul en scène.
Oui.
Puisque au départ, c'est un livre. Vous jouez, comment vous faites pour transcrire la prose de Marguerite Duras sur scène?
J'ai fait un montage d'une heure et demie. Il y a quatre personnages. Je joue les quatre personnages. Et je garde exactement la langue de Duras. C'est-à-dire, je n'ai absolument changé.
C'est le texte.
J'ai juste coupé pour que ça tienne dans une heure et demie de spectacle. Et il semblerait, vu les réactions du public, que c'est drôle. Que Duras est drôle. Que c'est pas du tout chiant, que c'est très vivant et que c'est très émouvant.
C'est inspiré de son enfance en Indochine.
C'est inspiré de son enfance en Indochine. Moi, ce pourquoi j'adore ce texte, c'est parce que elle présente des personnages qui sont extrêmement grossiers, violents, vulgaires les uns avec les autres, comme s'il n'y avait aucune âme, aucune éducation. Et en réalité, c'est le seul roman qu'elle ait écrit dans lequel il y a vraiment un regard d'une tendresse infinie sur l'humanité. Et on s'aperçoit que dans cette famille, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est la tendresse et l'amour. Et moi, j'adore jouer ce spectacle parce que j'ai l'impression de prêcher la bonne parole. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Même si on a l'air vraiment de s'écharper, comme on a fait ce matin.
Oh bah, c'était léger, là.
Il y a quelque chose qui existe d'autre. Et...
Bien sûr.
Et, voilà. Et moi, je voudrais jouer ce spectacle.
Je voulais jouer ce spectacle
jusqu'à ma mort. Donc, pour pouvoir le jouer jusqu'à ma mort, il faut qu'il y ait des gens qui viennent le voir.
Tous les jours, tous les soirs.
Tous les soirs à
19h. En tout cas, je recommande ce spectacle que j'ai vu parce que ma tante l'a joué il y a quelques mois déjà une première fois dans un autre théâtre. Donc, c'est un excellent spectacle. Pour qui aime Marguerite Duras ou qui ne connaît pas Marguerite Duras, on est vraiment dans le livre de Marguerite Duras. Moi, j'adore la langue de Marguerite Duras qui est reconnaissable entre mille. Et oui, voilà, nous
sans
avons.
Sans que ça soit chiant, parce que Duras égale un petit peu ennuyeux si on ne connaît pas.
Je trouve pas.
Nous
avons des divergences familiales. Il faut savoir que là, on est un contre un. Très souvent, je suis seul contre tous.
C'est hein sympa. Donc,
Charles, nous inviter à Noël, on ira t'aider. Hein.
Et non seulement je suis seul contre tous, mais il peut être 2h du matin, tout le monde est ivre mort autour de la table. C'est nos repas familiaux et on part dans un truc à la russe, si tu veux, où il faut se retenir pour qu'il n'y ait pas de mort à la fin du dîner.
Tu sais que quand on a créé les Grandes Gueules il y a plus de 20 ans, on avait pensé au repas familial du dimanche, en fait, avec des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, mais qui ont plaisir à se retrouver chaque semaine.
Mais non, on n'est pas d'accord avec Charles, mais on a tous confiance en lui.
Oui. Ça me fait plaisir. Oui. Je rassemble.
Est-ce qu'il doit se présenter d'ailleurs un jour à une élection?
Bah oui, s'il a une bonne idée pour faire en sorte que les gens qui n'ont pas assez d'argent pour vivre comme ils le souhaitent et pour prendre leur voiture pour aller au boulot et payer l'essence à un bon prix. Vas-y Charles.
J'ai une bonne idée. Ça consiste à donner des grands coups de tronçonneuse dans les dépenses publiques.
Ah, vous n'allez pas être d'accord.
Et notamment dans la culture.
Alors, n'importe quoi.
Faut pas voter pour votre neveu.
Merci Yann Consigny. Ouais. Dans un instant, suite des GG. Restez avec nous en direct sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
On va revenir sur la canicule, sur la chaleur là aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir le président de la République qui réunit les 200 dirigeants qui sont liés à l'électrification. C'est le plan du gouvernement. Mais face à cette chaleur, on se dit qu'on est quand même un peu largué, c'est-à-dire que les écoles ne sont pas climatisées. Et les plans de climatisation des écoles, ça a du mal à avancer. Donc il faut quand même il faut quand même que la France aujourd'hui se prépare face à ces épisodes de canicule qui seront précoces, et c'est au 32-16 que vous voulez, que vous pouvez en parler avec nous. En attendant de parler des canicules, on a Julien qui est là. Bonjour Julien.
Oui, bonjour.
Salut Julien, c'est vous qui avez été tiré au sort, c'est vous qui allez participer aux Jeux Coupe du Monde. Donc, mon cher Julien, c'est soit les 10 000 euros, soit le pack Coupe du Monde avec les cadeaux. Alors, pour ça, on va regarder qui il reste comme joueur dans la liste des 26. Il vous reste le 1, le 2, le 3, le 4, le 6, le 10, le 15, le 17, le 21 ou le 24. Brice Samba, Malo Gusto, Luca Digne ou Pamecano, Mateta, Mbappé, Konaté, Lacroix, Hernandez ou Cherki. Alors, allez-y, choisissez.
Moi, je vais prendre Lacroix.
Lacroix, c'est le 17.
C'est malin.
Oui.
Vas-y, Louis Gerbier, c'est lui qui va ouvrir. Hop, il a percé le petit papier bleu avec le numéro du maillot. Il va aller chercher le papier. Et tu dis donc à Julien ce qu'il a gagné. On y va, c'est parti.
Le marteau.
Julien, vous avez gagné le pack Coupe du Monde, vidéoprojecteur Samsung, maillot officiel de l'équipe de France, ballon officiel de la Coupe du Monde et la boîte Lego du trophée Coupe du Monde.
C'est l'intégrale.
L'intégrale Coupe du Monde pour vous, Julien.
C'est énorme.
La totale.
La totale.
Merci beaucoup. La Croix, c'est un nom de chez moi en plus des Landes, donc c'est parfait. Merci beaucoup.
Merci Julien d'avoir joué avec nous. Merci de votre fidélité au GG et allez les Bleus. Les enfants sont retournés à l'école aujourd'hui. C'est une semaine où il va faire très très chaud. 12 millions d'élèves, 61 000 établissements, 70% des écoles françaises construites entre 1950 et 1970, 30% des établissements qui ne sont pas adaptés soit aux fortes chaleurs, soit au froid.
Mais rassurez-vous, jeudi, c'est-à-dire dans deux jours, Sébastien Lecornu organise une réunion avec ses ministres sur la canicule. Alors, tout le monde s'interroge. Pourquoi, alors qu'on sera plutôt vers la fin de cette vague de chaleur, tout d'un coup, M. Lecornu réunit ses ministres? Mais c'est tout le charme de ce Premier ministre qui, avec ce rythme qui nous impose, arrive finalement à se maintenir à Matignon. Et je pense qu'il pourra tenir jusqu'au printemps 2027, puisque c'est la mission qui lui a été donnée. Effectivement, c'est assez incroyable. Et je pense que dans les écoles de com, il faudra étudier cette façon de faire. Mais trêve de plaisanterie, chaque année... Désormais, il y a une période caniculaire. Là, elle arrive plus tôt que prévu, elle surprend tout le monde. Hier, c'était la journée la plus chaude enregistrée pour un mois de mai depuis qu'on enregistre les températures. Mais on va sans doute battre aujourd'hui ce record, puisque mardi, c'est ce que disent les météorologues, s'annonce encore plus chaud, notamment dans des régions qui n'ont pas l'habitude de ces fortes chaleurs, l'Ouest et la Bretagne, par exemple. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'Ouest est en canicule orange, contrairement à d'autres départements où il fera peut-être plus chaud, mais on a plus l'habitude dans le Sud d'affronter ces fortes chaleurs. Et à chaque année, on se pose la même question. Pourquoi il n'y a pas la clim dans les écoles? Pourquoi les horaires ne sont pas adaptés? Pourquoi dans les entreprises on ne prend pas les mesures nécessaires? Alors la clim dans les écoles, dans les mairies de gauche, on n'en veut pas parce que la clim, c'est mal. Mais en revanche, à Cannes, par exemple, on a vu que David Lisnard avait installé la clim dans toutes les écoles, puisque c'est le maire qui s'occupe des écoles primaires et maternelles. Donc c'est possible. Pourquoi, par exemple, les horaires de travail ne sont pas plus adaptés à ces fortes chaleurs?
Il y a même mieux, Barbara, je ne savais pas, mais 50% des écoles en France n'ont ni protection solaire extérieure, ni volet.
Ah oui.
Il n'y a même pas de volet.
Mais mon pardon, mais Alain,
50% des écoles.
On l'a dit l'année dernière, on le redira sans doute. Que font les autorités publiques qui ont en charge, hein, c'est une mission régalienne, l'école de l'État.
Écoutez, mon collège est un collège qui doit être détruit depuis plusieurs années et le conseil départemental a annoncé qu'il n'y avait plus les sous, donc il est toujours là. Nous, on vit dedans. C'est une passoire thermique, c'est-à-dire que l'hiver, moi, je suis avec ma doudoune sans manches et mes 12 pulls. Et l'été, donc là, je sais très bien que cet après-midi...
Tu cours en maillot de bain?
Cet après-midi, je vais littéralement crever de chaud parce qu'il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de store, mais des rideaux rouges. Ce qui est génial, le rideau rouge,
quand il fait
chaud, que c'est extraordinaire. Et tu ne les mets pas trop non plus parce que comme la fenêtre est ouverte, tu as le vent. Et donc, les élèves, ils ont le rideau dans la tronche. C'est comme ça, ça va durer 2-3 jours, on va s'en remettre, vous achetez un petit éventail, vous faites tac, vous buvez un peu d'eau dans la gourde, et je pense que ça va passer, je pense qu'on va supporter. Donc faut arrêter de dramatiser avec ça. Les nouveaux établissements scolaires, certains, excusez-moi, j'ai été dans des bahuts neufs, c'est pareil, on te construit le bahut en pleine exposition solaire, avec les fenêtres qui ne s'ouvrent pas parce que les élèves pourraient se jeter par la fenêtre. C'est plutôt les profs en général d'ailleurs, on a plutôt nous envie de nous jeter par la fenêtre. et on ne peut plus ouvrir les fenêtres. Donc comme tu fais un oscillo-battant de 2 cm, t'as pas d'air non plus. Donc le problème, les anciens établissements ou nouveaux établissements, c'est un problème de toute façon. Donc ce qu'on fait, on supporte, on n'annule pas les examens, ouais, s'il vous plaît, pour ça, comme on l'a fait l'année dernière. Il y a eu des oraux de seconde qui ont été annulés parce qu'ils avaient trop chaud, ça a duré une journée, donc ça suffit.
2000 écoles l'année dernière ont fermé par anticipation.
On prend un éventail et on fait comme ça.
À cause de la canicule.
Moi, je suis désolé, d'abord, la chaleur actuelle, on la vit là à Paris, je trouve qu'elle est tout à fait supportable. Alors peut-être que, excusez-moi, c'est tout à fait supportable. Et ensuite, un bon ventilateur, je suis désolé, mais ça suffit largement à vous rafraîchir une pièce suffisamment pour y travailler. Il faut pas exagérer. Moi, ça me fait penser je me demande s'il n'y a pas là-dedans un peu de revendication syndicale, c'est-à-dire dès qu'il y a le moindre problème, oulala, on ne peut plus faire cours, on ne peut pas travailler, on doit...
C'est normal que... Moi, je pense qu'il faut surtout quand même protéger les enfants et qu'ils puissent...
Oui, mais il fait pas une chaleur de peu...
Mais si, il fait 35 degrés, mais tu te rends pas compte, va voir si les classes.
Mais mets des ventilos et voilà.
Mais il n'y a pas de ventilos.
Dans une classe, mais
un ventilo, je suis désolé, ça coûte 10 balles sur Amazon.
Mais tu prends pas compte la misère de ces écoles. Non, c'est pas ça, Charles. Pour que un établissement scolaire, supposons de 40 classes. Et non, mais je vais t'expliquer.
Oui.
Achète des ventilos.
Et ben je vais vous dire une chose.
Faire passer un appel d'offre.
Et ben je vais te répondre.
Et le ventilo, attends, je
le ventilo à 10 balles de Charles, tu vas le payer 150 en même temps.
Le ventilateur qui est à 10 euros en vente publique
sera à 40 euros.
À l'éducation nationale, il sera à 125 euros.
Je vais faire hurler. Je considère que les profs eux-mêmes peuvent acheter les ventilos.
Tout à fait.
Voilà. Je suis désolé, ça coûte 10 euros sur Amazon. C'est comme quand on dit, on n'a pas
de stylo. Ils n'ont pas le droit de le faire.
Ils n'ont pas le droit.
Je vais te raconter une anecdote.
J'ai pas ma propre salle.
On change les règles.
C'est qu'il y en a trop des règles.
Je vais te raconter. Ils l'achètent et ils se font rembourser après par l'éducation nationale.
Ça ne marche pas comme ça. Je vais te raconter une histoire. C'était la canicule de juin, il y a 3, 4 ans, 5 ans. Bref, il avait fait très chaud au mois de juin. Il avait encore école. Je connais un père de famille qui voyait son fils transpirer dans la classe maternelle toute la journée. Il dit, c'est pas possible, je vois pas pourquoi on laisse les choses comme ça. Il a été acheté 10 ventilos pour mettre dans toute l'école. Tu vois, il est arrivé.
Un mécène, donc.
Et ça a été refusé par l'établissement, parce que l'établissement, je lui dis, on aimerait bien les accepter, mais on ne peut pas, c'est contre le règlement, mais puisque ça vient de l'extérieur.
Et dans ce cas-là, on s'en fout du règlement. Le règlement, tu le déchires.
Non, parce que la directrice ou directeur ne sera pas sanctionné.
Je suis pour l'irruption.
Il n'aura pas les points nécessaires.
Le directeur recevra un blâme.
Je suis pour qu'on importe, je vous en supplie, un nouveau concept. Je vais créer une nouvelle règle. Quand je serai chef de l'État, j'inscrirai dans la Constitution qu'en matière réglementaire et administrative, le premier principe à suivre, c'est le discernement. Et j'estime qu'on peut faire confiance aux fonctionnaires pour qu'ils fassent preuve de discernement. Je pense qu'il faut instituer cette règle. Sinon, effectivement, on se retrouve avec ces choses absurdes où les gens nous expliquent qu'ils n'ont pas le droit de faire des choses qui sont que le discernement autorise. Donc moi, je suis pour inscrire le discernement dans la Constitution et notamment accepter les ventilateurs.
Les continuons à avoir trop chaud.
Offert par les parents.
Écoutez, de toutes les manières, on voit bien aujourd'hui que notre pays n'est pas adapté. Je crois que le taux de climatisation au Japon, en Corée du Sud, on est à 80% aujourd'hui. Donc,
aujourd'hui, il y a un rejet idéologique de la clim en France. Les écolos font pression.
Voilà, peut-être qu'il faut y penser. Aujourd'hui, la climatisation, les stores, la végétalisation. Je me souviens de ma petite école, Bischofheim, dans le quartier Riquier, à Nice. On avait les stores qui s'ouvraient. Tu sais,
on avait des arbres dans la cour. Mais les arbres, on les a coupés parce que c'est dangereux.
Allez, à tout de suite pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Avec les GG, avec les grandes gueules, vous continuez de discuter, vous continuez de débattre. On parle aujourd'hui de notre pays qui n'est pas habitué à la climatisation. Alors, je regardais quelques-unes des critiques qui reviennent sur les réseaux sociaux. On leur dit, dites donc, vous n'allez pas transformer la France pour deux ou trois jours par semaine.
Voilà.
Par anticipation.
C'est idiot. Exactement. Parce que ça revient toutes les. Non. Ça revient. Alors, chaque année, ça reviendra de plus en plus.
Et Didier, puis ensuite, et on va de cette question de Guillaume.
Non, ce que je voulais dire, enfin, ce qu'on a fait dans le début du débat, c'est quand même aussi le procès de la France des normes, des règles et de ce qu'on ne peut pas changer. Moi, où je suis stupéfait, c'est que le changement climatique, il n'y a à peu près plus personne qui le conteste. En hiver, il ne fait plus froid, il tombe de l'eau. En été, il fait chaud. Et de plus en plus tôt. Je trouve que ça, c'est pas contestable. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde dans ce pays est en train de s'adapter, sauf l'État, quoi. Moi, j'ai passé la journée d'hier avec des vignerons. Tous les vignerons de France. Bah oui. Sont en train de modifier leurs pratiques pour s'adapter au changement climatique. Je connais même des endroits où on est en train de changer les vignes, parce que le porte-greffe ne supporte pas, entre autres sur le Pinot Noir, le porte-greffe ne supporte pas les trop grosses chaleurs trop longtemps. On en est arrivé à vendanger à la mi-août, quand on vendangeait début octobre avant, et aujourd'hui, ils sont en train de changer les cèpes, carrément.
Je te rappelle que des vignes s'installent en Bretagne.
Tout le monde est en train de s'adapter, mais l'État n'est pas capable. Et l'État nous empêche de nous adapter. Parce que les deux grosses choses qu'il y a à faire.
L'Europe, c'est pas la France.
Non. La France, c'est lobbying, les écolos et les autres.
La France,
aujourd'hui,
et l'Europe,
il faut stocker de l'eau l'hiver. On aurait de quoi remplir des méga-bassines tout l'hiver. Pour rendre de l'eau, avec l'eau à cette saison-là, il nous faut stocker de l'énergie solaire à cette période de l'année-là. Parce qu'aujourd'hui, on est...
Je ne sais pas si on peut stocker de l'énergie solaire.
Eh ben, on est au balbutiement des batteries.
On m'a toujours expliqué que l'électricité ne se... Ah oui, dans des grandes batteries.
Aujourd'hui, on est en train... Enfin, les boîtes de photovoltaïque sont en train de développer les batteries pour justement pouvoir stocker de l'électricité produite quand il fait chaud la journée, pour la remettre la nuit et quand il fait froid. Et je trouve que on devrait plutôt regarder aujourd'hui vers le sud de l'Italie, vers le sud de l'Espagne, voir comment ils vivent, voir comment ils se sont adaptés, plutôt que de dire que les profs jettent leurs propres ventilos.
La canicule, elle dure quand même pas six mois d'année.
Non, mais là, vraiment,
on a intervenir dans les
Non, mais Charles, pardon, il a des années 80 qu'on peut pas laisser. C'est passé.
Non, mais
tu parles dans les années 80.
Ils sont déjà tous en vacances, là.
Non, les périodes de chaleur vont s'accélérer. Aujourd'hui, c'est pas une canicule par an, c'est au moins deux canicules par an.
On peut pas annuler les examens tous les ans en juin, quoi.
Gouverner, c'est prévoir. Il faut simplement s'adapter, effectivement, comme le font les vignerons. Bah, l'école, il faut climatiser les classes, peut-être changer un peu les horaires.
Faut revégétaliser. Enfin, les arbres dans les, on n'a pas été au bout du débat, mais les arbres dans les cours d'école, c'est parce qu'il y avait un risque.
Oui,
qu'il y ait une branche d'arbre qui tombe, qu'on a
et les racines, que les gamins se prennent les pieds dans les racines.
On remet des arbres, on peut aménager les horaires.
Guillaume,
peut-être qu'effectivement le bac c'est plus fin juin.
Enfin,
c'est
pas bonjour Guillaume.
Ah oh, ben non, faisons le bac en décembre, c'est vrai qu'il y a
toujours des scrogneugneux pour dire.
Mais c'est pas ça, c'est qu'il faut.
S'il vous plaît.
Non mais il faut que les gens s'adaptent, arrêter de fabriquer des fragiles comme ça.
Mais c'est pas ça, c'est que le temps change.
Guillaume, Charente Maritime, chef de cuisine en école. Guillaume, on va y arriver.
Bonjour les Gégés.
Alors, qu'est-ce qui est prévu dans votre école, vous ? Est-ce qu'elle est adaptée en Charente-Maritime ou pas ?
Là, pas forcément, puisque c'est comme tout bâtiment public depuis une quarantaine d'années, c'est pas réfléchi correctement. Enfin, ça suit pas son temps, quoi. Et là, il parle maintenant de revégétaliser la cour, mais ça aurait dû être fait déjà il y a bien longtemps, puisque moi, voilà, j'ai 46 ans. Les écoles, on les a plus ou moins connu comme ça déjà il y a une trentaine d'années et puis ça il y a rien qui a évolué sur les constructions quoi.
Mais en plus
ils ont pas suivi l'évolution.
Ce qui est plus grave Guillaume, c'est que même le neuf ne s'adapte pas à ça.
Tout à fait.
C'est ça qui est plus grave.
C'est fait par des architectes ou pour faire plaisir à des architectes, mais il n'y a pas de réflexion sur le bâtiment quoi.
Exactement, moi j'ai été dans un collège à Puteaux, tout neuf. Exposé plein sud, fenêtre qui s'ouvre pas, cours sans arbre, et un seul escalier pour 800 élèves.
Collège, non, franchement, c'est le département.
Tu te demandes qui était cet architecte. Hein, il avait eu son diplôme. Allez-y, dans une Guillaume. Pochette surprise.
Il fait 15 degrés l'hiver et puis c'est des pompes à énergie pour chauffer. Et l'été, il fait extra chaud dès qu'il y a un petit peu de soleil. Quoi.
Mais Guillaume, puisque vous êtes en Charente-Maritime, donc la chaleur, il y en a, du soleil, il y en a chez vous.
Oui, bah oui.
Et en plus, vous l'avez jusqu'à tard puisque c'est plein ouest. Donc j'imagine quand même que vos écoles, aux façades d'école, vous avez au moins des volets, des stores dépliants ou pas?
Non, bah là on a parce que je travaille en restaurant scolaire, nous on a des rideaux qui atténuent le soleil quand on les baisse et ils sont occultants, mais la chaleur passe quand même au niveau du vitrage, donc parce que bien sûr c'est des grandes baies vitrées.
Il n'y a pas de volet extérieur?
Non. Non, il n'y a pas de volet.
Voilà, bah ça c'est.
Pourquoi il n'y a pas de volet ça, mais je rappellerai que le collège c'est le département, lycée c'est la région, et les écoles c'est la commune.
Alors Guillaume, on va voir ce qu'en dit Rémi, qui est micro-entrepreneur du côté de la Loire-Atlantique. Bonjour Rémi.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Bienvenue Rémi, qu'est-ce que vous en dites?
Merci. Bah, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Guillaume aussi. Tout d'abord, moi aussi je suis un peu archéopathe comme Barbara Lefebvre. Hein, c'est-à-dire partisan du c'était mieux avant, c'est-à-dire que dans ma voiture, quand il fait chaud, je mets pas la clim.
Voilà.
Par contre,
c'était mieux avant, il n'y avait pas de dérèglement climatique avant, donc ça veut rien dire.
J'ai la clim dans ma voiture, mais je la mets pas, j'ouvre les fenêtres.
Exactement.
Ça, chacun fait ce qu'il veut. Je vous ai juste entendu commencer par parler de climatisation dans les écoles. Et là où je voulais rebondir sur ce qu'a dit Guillaume, c'est effectivement, déjà des cours où tout est bitumé, où il y a zéro arbre, comment on va s'en sortir?
Oui, c'est ça.
Comment on va s'en sortir? Les municipalités n'ont plus d'argent. Moi, je suis dans une commune de 3500 habitants, là, le Landreau en Loire-Atlantique. Bah, c'est compliqué de faire des gros travaux comme ça, surtout pour un équipement qui est ouvert 200 jours sur 365. Ils ont tout rénové chez nous.
Bah, faut faire un peu moins de ronds-points et peut-être plus s'intéresser à nos enfants. C'est aussi la politique communale, c'est aussi des choix. Moi, quand je vois des communes, on refait 25 fois les trottoirs et on fait des très beaux ronds-points qui coûtent une fortune.
Bien sûr.
En revanche, l'école est laissée à l'abandon.
Vous faites une erreur. Il y a aujourd'hui un programme de rénovation pour être aux normes énergétiques des écoles communales. Il est en œuvre et il doit se terminer avant 2031, je crois.
Mais
il n'y a pas la prise en compte de ces choses-là dedans, c'est ça?
Je peux pas entendre que les petites communes ou les communes tout court en France n'ont pas d'argent. Elles se lancent toutes dans des travaux aussi mérifiés qu'inutiles.
Allez-y, Rémi.
Mon propos, c'est exactement
et qui
ça,
valent des centaines
nous,
de milliers
dans
d'euros.
Dans notre commune de 3500 habitants, ils ont retapé la salle polyvalente pour faire justement des travaux d'isolation. Ils ont retapé la médiathèque pour faire des travaux.
La médiathèque aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin de médiathèque?
C'est réglementaire.
On a aussi une école privée. L'école publique, elle est laissée derrière dans notre commune. Voilà.
Mais une médiathèque, par exemple, à l'heure du numérique,
je vous laisse la parole, c'est que même nous, à l'Association des parents d'élèves, on finance aussi des achats du matériel pour l'école. C'est l'Association des parents d'élèves qui finance une partie du matériel de l'école. Voilà.
D'accord, merci Rémi d'avoir été avec nous.
Personne n'a jamais géré une commune autour de cette table, et moi je peux te dire que la médiathèque, c'est du réglementaire, quoi.
T'es obligé de faire une médiathèque?
Non.
Je suis passé dans le village récemment.
Ils sont en train de construire
une médiathèque qui est quasiment plus grande que le village.
Non, c'est pas ça.
Du numérique, mais quel gaspillage.
Non, c'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, la rénovation de la médiathèque et la mettre aux normes, c'est une obligation.
On a un maire avec nous, c'est Jérôme François qu'on connaît dans les GG, le maire de Mériel. Bonjour, bonjour Jérôme. Bienvenue Jérôme, du côté du Val d'Oise. Bienvenue. Jérôme, tu nous as appelé parce que toi, tu remets des arbres dans la cour des écoles?
Oh là là. Mais oui, j'entends plein de choses. Déjà, la première chose, effectivement, c'est de remettre les écoles aux normes. Et ça, c'est une obligation. Il y a un décret qui s'appelle le décret tertiaire, qui est issu de la loi Elan. Je vais pas rentrer en détail. Qui nous oblige à avoir des objectifs en matière de réduction de consommation d'énergie. Merci. C'est moins 40% avant 2030, moins 50% avant 2040, etc., etc. Donc ça, c'est une obligation. Aujourd'hui, dès que nous, on construit un bâtiment neuf, il est forcément aux normes d'aujourd'hui. On va pas s'amuser, surtout au prix de l'énergie, à pas respecter ça, hein. J'entends là des horreurs sur les maires, sur les élus qui font des ronds-points. C'est plus compliqué que ça, quand même. On fait quand même des efforts, sur nos bâtiments et pour le confort. Alors effectivement, pour moi, la clim, c'est pas la solution, parce que j'ai beau être plutôt étiqueté à droite, hein, la clim, bah oui, ça consomme, c'est de l'entretien, c'est pas très vertueux, il y a des problèmes d'hygiène.
Enfin, non, voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des blocs clim qui sont réversibles, donc ils font chauffage.
Oui, et les arbres, Jérôme.
Il y a des pays comme la Corée du Sud, on voit ailleurs.
Et les arbres.
Moi j'ai vécu une partie de ma vie au Sénégal, ils ont pas de la clim dans les écoles et il fait chaud. Donc je veux vous dire qu'il y a d'autres solutions que la climatisation aussi. Hein.
Vous avez raison, la France il vaut mieux. Donc, il faut qu'on se projette en prenant exemple sur le Sénégal plutôt que sur la Corée du Sud. C'est un bel horizon pour la France.
Et tu remets des arbres.
Je dis qu'il y a des pays du Sud où on a d'autres solutions.
Oui, mais ils ont pas les mêmes horaires. Mais dans ce cas-là, ils ont pas les mêmes horaires d'école.
Moi je suis d'accord là-dessus. Non, mais là-dessus, moi, je suis d'accord. Ce que je dis, c'est que nous, on veut revégétaliser. C'est-à-dire qu'à certaines époques, moi, j'ai connu les écoles primaires. J'ai 56 ans. Donc, j'ai connu les écoles primaires avec des arbres. Ça a été arraché à la demande des parents d'élèves à l'époque. Parce que c'était dangereux à cause des racines, les enfants tombaient. Parce que ça, il y avait des insectes, des abeilles, tout un écosystème.
Exactement.
C'est pour ça que ça a été arraché. Nous, aujourd'hui, on fait le constat qu'il faut remettre des arbres, il faut remettre des zones d'ombre. Moi, j'ai 4 écoles.
Mais rebelote, vous aurez les mêmes qui vous disent « Ah, mais il y a des abeilles !» Ben voilà, parce qu'ils ne savent pas habituer leurs enfants à vivre avec le vivant et à vivre avec la chaleur et avec le froid. Mais c'est comme ça.
Merci à Jérôme François. Merci Jérôme d'avoir été avec nous. Jérôme, le maire de Mériel, dans le Val d'Oise. Alors, on va arrêter là, mais je sais que là. Alors, vu ce qu'on me dit au standard, le nombre de parents, de directeurs d'école qui veulent intervenir, ça tombe bien, le débat va continuer chez Estelle Denis tout à l'heure. La France incapable de s'adapter, la France est-elle à la ramasse face aux fortes chaleurs, face à la canicule? Vous dites oui à 92%. Donc, je vous le disais, ce qu'il faut faire pour les écoles, pour les bâtiments, ça tombe bien. Estelle va continuer d'en parler avec vous au 32-16. Bonjour Estelle.
Salut Alain, salut les GG. Bah oui, évidemment, on va se poser cette question. Est-ce qu'il faut fermer les écoles? Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation, dit que non, c'est pas nécessaire pour le moment. Enfin, vu qu'il va faire 35 degrés, par exemple, dans certaines grandes villes comme Paris.
Au mois de mai, elles étaient fermées quasiment toutes les semaines. Donc
oui, et puis l'année dernière, on a regardé avec Charles Magnin. Alors c'était en juillet, hein, c'était un mois et demi plus tard, mais il y avait beaucoup d'écoles qui avaient été
2000.
Qui avaient été fermées, voilà. Donc en fait on est capable de le faire et ça permet quand même aux parents de s'adapter et pas d'arriver
et pourquoi pas, au lieu de fermer les écoles, pourquoi ne pas faire en sorte qu'elles puissent rester ouvertes avec de la clim?
Ah mais moi je suis s'adapte. Pour et clim réversible comme tu l'as dit,
voilà,
tu chauffes l'hiver
excusez-moi, ils risquent quoi les enfants d'aller à l'école pendant deux jours où il y aura un peu de chaleur et qu'on aère
un peu de chaleur, Barbara, c'est 35 degrés, ce qui veut dire, tu sais, t'as des écoles avec, je sais pas, attends, je vais apprendre ça, avec des bâtiments qui sont
le reste du monde, ils font donc, comment
bah, ils meurent tous les enfants. Ils font comme ils veulent.
Mais
après, mais on est la France, on est en droit de dire qu'à un moment.
Oui, on ferme l'école, écoles... ça sert à rien l'école. Non, ça va nous faire progresser dans le classement PISA.
Mais là, maintenant, le Covid, on sait depuis une semaine qu'il fait 35 degrés.
Et qu'est-ce qu'il fait? Le cornu fait une réunion jeudi.
Alors, il neige. Une fois qu'il fera froid,
dans mon pays,
c'est quand il va pleuvoir.
Il neige, t'y vas pas. Il fait chaud, t'y vas pas. Il pleut, t'y vas pas.
Bon, on parlera vêtements, justement. Vous savez que nous, les femmes, on est avantagées. On a le droit de se mettre en petite robe d'été, en sandales, mais vous, les hommes, n'avez pas le droit. Vous êtes tous en veste, en pantalon.
Dans les champs, il est en petite
Didier est en, chemisette.
Mais c'est la belle des champs, là.
Est-ce qu'on doit autoriser les shorts, les sandales et les débardeurs au travail pour les hommes? Ça, on en parlera à midi et demi. On parlera également de ce chiffre, 21,5% des jeunes, donc plus d'un jeune sur 5 est au chômage aujourd'hui en France.
Ça s'appelle les NEET.
Et bien voilà. À qui
sans
la faute
emploi, sans
est-ce
éducation,
c'est
sans
la
formation.
Faute des jeunes, du gouvernement ou des entreprises?
Bon débat avec Estelle au 32-16, c'est en direct sur RMC, RMC Story jusqu'à 15h.